Le titre du message d'aujourd'hui, Dieu appelle son peuple au combat, et on continue dans le livre de l'Exode, Exode 17, 8 à 15, un épisode connu, populaire, important. On va lire le texte, mais d'abord, je vous invite à prier avec moi. Ô Père de gloire, toi qui nous as envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, te remercie. Il nous a enseigné à te prier. Toi qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Oui, on veut être à l'écoute de ta parole aujourd'hui et réfléchir aussi au combat que tu as lancé, un combat victorieux pour amener ton règne. Et c'est quelque chose de merveilleux et merci de nous impliquer là-dedans, de nous inviter à être avec toi dans ce combat. Merci pour ton amour pour nous. Au nom de Christ. Amen. Alors, on va lire le texte, et donc, voilà, c'est un peu le même contexte que la dernière fois, c'est-à-dire un peu au début de la traversée du désert du peuple d'Israël. Alors, Exode 17, à partir du verset 8. « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. » Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Donc, j'ai amené un bâton ce matin. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Et comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de Dieu, il y aura la guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Amen. Alors, dans cette histoire bien connue, nous apprenons une leçon importante qui s'applique au peuple de Dieu de ce temps-là, mais à nous aussi aujourd'hui. Et voici comment je résume ça. Notre Dieu mène un grand combat spirituel pour se sauver un peuple et aussi pour préparer le monde pour son règne. Il veut te confier des rôles et des actions dans son armée et dans son combat. Donc, il t'invite à lui dire oui par la foi.
Amen.
Amen. Alors, je répète ça. Notre Dieu livre, il a démarré un grand combat pour sauver un peuple et pour amener son règne. Et il veut te confier des rôles et des actions dans son armée spirituelle. Il t'invite à lui dire oui par la foi. Alors, j'aimerais faire trois observations dans cette histoire qui nous parle de choses importantes. Donc, premièrement, je voudrais mentionner Amalek. Donc, on a lu l'histoire et le nom d'Amalek revient à plusieurs reprises. Amalek, c'est l'ennemi qui survient subitement contre Israël dans le désert. Et Amalek, c'est un peuple du désert qui a déjà apparu dans le livre de la Genèse, donc le livre avant l'Exode. Et ici, on voit qu'Amalek, Amalek c'est le nom du roi, et les Amalécites, c'est son peuple, ils vont prendre la même attitude blasphématoire et révoltée contre Dieu que le Pharaon, finalement. C'est un peu la même attitude. Ils voient le peuple de Dieu qui semble faible, qui semble vulnérable, et ils se disent, « Ben, quelle belle opportunité pour moi d'aller les écraser. Quelle belle opportunité pour nous de faire de ce peuple faible-là mon butin à moi pour m'enrichir ou pour devenir plus fort, pour les éliminer même. Le Dieu de ce peuple-là, je ne le reconnais pas, ni son plan spécial pour ce peuple-là. Non, c'est mon plan qui est important. Voyez-vous un peu, c'était ça l'attitude de Pharaon qu'on a vu. Et Amalek arrive avec la même attitude. Et on va voir un peu plus tard que quand Dieu parle à Moïse après la victoire, il dit, Amalek, il s'est révolté contre le trône de Dieu. Donc, ce n'est pas juste contre Israël, mais c'est contre Dieu qui est celui qui appelle Israël. Littéralement, il lève le poing, il lève la main contre le trône de Dieu lui-même. Et c'est très grave. Et on va voir que Dieu va vraiment stopper Amalek et plus. Donc, Amalek, c'est le symbole des ennemis de Dieu et du plan de Dieu en général. Et non seulement les humains qui s'opposent au plan de Dieu et à l'œuvre de Dieu, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, des humains qui vont s'opposer au plan de Dieu, mais on pense aussi aux forces spirituelles qui sont derrière ces humains-là et qui agissent dans le monde invisible. Ce sont ces forces-là qui vont influencer, qui vont pousser des hommes, des femmes, des gouvernements à s'opposer au peuple de Dieu, à l'avancement de l'Évangile. Et la Bible nous dit que, de manière générale, il faut vraiment voir dans tout conflit qui peut arriver dans ta vie, et particulièrement quand il s'agit de l'Évangile, c'est pas contre des humains qu'on est en train de se battre, mais contre des forces du mal dans le monde invisible. D'accord? Donc, ça aide beaucoup de se dire, je prends un peu de recul et je ne vais pas avoir de la haine pour la personne qui est devant moi, mais avoir peut-être même une compréhension et même une certaine pitié, elle est poussée par l'ennemi de Dieu, Satan et des anges déchus qui travaillent dans l'invisible pour pousser les hommes contre le plan de Dieu. Alors, l'autre chose qu'on peut dire concernant Amalek, il arrive à l'improviste, il arrive soudainement dans le contexte. En fait, Israël vient d'arriver dans un endroit qui s'appelle Réphidim. Et là encore, ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Et c'est un thème récurrent dans la traversée du désert. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? on l'a vu la semaine dernière, ils vont commencer à murmurer, oui. Ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu. Pourquoi tu nous as amenés ici? Mais Moïse a pris le bâton. Dieu lui a dit, frappe le rocher ou la falaise. Et puis, il y a de l'eau qui est sortie, de la bonne eau fraîche. Ils ont bu. Grande victoire, grande joie à Rephidim pour le peuple de Dieu. Tout d'un coup, une armée ennemie arrive subitement pour les combattre à Rephidim. Amalek arrive à l'improviste. Et c'est un rappel que, donc, quand on est avec Dieu, eh bien, il y a une guerre qui est toujours en cours, la guerre de Dieu contre les forces du mal. On ne sait jamais quand il faut prendre les armes. Je parle d'armes spirituelles. Nous ne sommes pas dans un combat militaire. On n'est pas dans un combat économique non plus, comme c'est le cas de notre nation canadienne. C'est un combat spirituel avec des armes spirituelles, mais il faut être prêt en tout temps. On ne sait jamais quand une occasion va venir où il va y avoir une crise, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Jésus nous a dit lui-même, apprenez à vivre la vie chrétienne en veillant, c'est-à-dire en étant attentif. Est-ce que Dieu m'appelle au service? Maintenant, Amalek arrive à l'improviste et Israël a dû être prêt à combattre. Et puis, un autre aspect que je remarque dans l'histoire, à la fin, vous avez peut-être vu, Dieu dit à Moïse, ben, après cette grande victoire, écris ça dans le livre pour s'en souvenir. Ça, c'est une chose qui est importante aussi, d'écrire. Quand vous vivez des réponses à vos prières, est-ce que vous l'écrivez dans un petit recueil de réponses aux prières ou un petit livre des miracles de Dieu? Ça vaut vraiment la peine d'écrire et puis de relire. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que Dieu dit à Moïse, fais dire à Josué qui a combattu dans la plaine. Et Dieu savait, Josué va être ton successeur, Moïse. Dis-lui que je déclare la guerre à Amalek et puis je vais éliminer son souvenir. Alors, ce sont des mots durs, mais tout ça pour dire à Josué qu'il y aura d'autres, il aura d'autres guerres à mener contre Amalek dans le futur, et il a besoin de savoir, et Dieu veut qu'il sache, j'ai déjà assuré qu'il y aura une victoire totale contre Amalek dans l'avenir. Alors, quand tu auras à te battre à nouveau contre lui, sache que la victoire est déjà gagnée. OK? Et ça nous rappelle qu'est-ce qui est arrivé en Jésus-Christ, que nous, on est appelés dans un combat pour avancer l'Évangile, pour grandir l'Église de Dieu, pour grandir dans la foi en Christ. Vous savez-vous que notre victoire est assurée à cause de la mort et de la résurrection de Christ? Amen. C'est quelque chose que Jésus nous a dit. Ne craignez pas. Oui, soyez prêts à combattre. Oui, des fois, ça va être difficile, mais la victoire est déjà acquise. Amen. Oui, le royaume de Dieu, c'est garanti qu'il s'en vient. Et nous, on marche là-dedans, un peu comme Josué va avoir beaucoup de confiance dans ses combats. C'est un peu comme, dans le bon vieux temps, les Canadiens de Montréal, c'était une équipe de hockey imbattable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ils s'améliorent. Ils sont dans quelque chose qu'on appelle un plan de reconstruction. Mais bon, ça, c'est pas de ça que je veux parler, mais à l'époque où ils étaient la meilleure équipe, ils arrivaient contre les Bruins de Boston, par exemple, et ils avaient beaucoup, beaucoup de confiance parce que c'est comme, on gagne à chaque fois contre les Bruins. Je répète, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est cette même confiance que Josué va avoir contre Amalek. Et c'est la même chose pour nous dans notre marche qui est parfois difficile. Jésus a déjà gagné le combat. Soyons confiants. Soyons confiants. Alors, un autre point dans cette histoire, et c'est le point le plus important, on reste connecté à Dieu. La priorité pour Israël dans cet épisode, rester connecté à la puissance de Dieu. Il faut faire le nécessaire pour rester branché à Dieu lui-même. Ce combat contre Amalek n'est pas ultimement leur combat, mais c'est le combat de Dieu. Puis ça, c'est un thème dans tout l'Ancien Testament. Quand Israël reste connecté à Dieu, eh bien, c'est Dieu qui combat devant eux. C'est lui qui va en guerre pour eux. Et souvent, c'est arrivé qu'ils vont dans le combat, et puis c'est comme les ennemis sont déjà partis parce que Dieu a fait quelque chose pour les vaincre avant même que les armées d'Israël arrivent. Donc, voilà le principe. Israël doit rester connecté à Dieu et remarquer que l'histoire, qui est une histoire de belles victoires militaires, mais l'histoire ne raconte pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la plaine. Il n'y a pas de focus sur Josué qui donne des ordres et les grandes prouesses militaires. Non, pas du tout. Tout le focus est où? Sur la montagne, la colline, ou la petite montagne. Là où Moïse avait compris, dans l'image, Moïse est comme ça. Moi, j'imaginais qu'il serait plus comme ça, peu importe, mais Moïse a vraiment compris où était la priorité. Le canal de la puissance de Dieu, depuis le début du livre de l'Exode, en tout cas, un des canaux importants, c'est le bâton que Dieu lui avait donné au moment du buisson ardent. Et dans toute l'histoire, à travers ce bâton que Moïse soulevait à des moments clés, il a fait venir plusieurs des plaies d'Égypte sur l'Égypte. Il a même arrêté certaines plaies avec le bâton. Évidemment, il a fendu la mer, la mer Rouge. Il a fait comme ça et l'eau a fait comme ça. Je pense qu'avec le bâton, il a refermé la mer sur les Égyptiens. Et puis on vient de voir, il a fait sortir de l'eau de la falaise avec le bâton également. Alors, Moïse, dans le moment de crise, a discerné rapidement et avec raison que pour gagner la bataille, il fallait qu'il reste uni à Dieu par le canal qui était le bâton. Et il est monté sur la montagne et il l'a tenu comme ça. Hein? C'était comme ça qu'il s'est dit, on va exprimer notre connexion, notre confiance en l'Éternel en élevant le bâton comme le mot qui est utilisé ici, c'est étendard, qui veut dire un peu une sorte de drapeau. Donc, je lève le drapeau qui représente Dieu, qui représente l'Éternel. L'idée, c'est que dans la plaine, les soldats pouvaient en tout temps voir l'étendard ou le drapeau, c'est-à-dire Dieu est avec nous, c'est Dieu qui combat pour nous. Et ils ont fini par appeler ce lieu, ou en tout cas l'autel commémoratif qu'ils ont construit, l'Éternel, mon drapeau. Restez connectés à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on va dire avec raison qu'on n'utilise pas des bâtons comme ça pour rester connectés à Dieu dans notre combat. C'est plutôt l'acte, la décision de venir prier ensemble en communauté. Certains vont utiliser le mot la prière corporative. Quand le peuple de Dieu décide ensemble, on va venir ensemble pour intercéder, pour prier pour notre combat. On l'a vu, on le voit souvent dans le livre des Actes. Notre pasteur Michel, dans le temps, tu nous avais enseigné cela. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais que dans le livre des Actes, souvent, le peuple de Dieu va venir ensemble pour prier, pour intercéder, et c'est là que Dieu vient les rencontrer. C'est ce qu'on fait aussi dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Je me souviens de notre expérience de prière ensemble en 2023 et 2024, quand on a intercédé pour notre tournoi de soccer, celui qu'on organisait pour le quartier Cloverdale. Et trois fois de suite, on a dit, on va se réunir, on va prier, on va intercéder pour le succès du tournoi de soccer et surtout que Dieu protège le tournoi de la pluie. Et trois fois de suite, ils annonçaient de la pluie. L'île de Montréal passait par une période de pluie. Mais à chaque fois, il n'y a pas eu de pluie. On a prié et puis la journée du tournoi, il n'y a pas eu de pluie. Et je dirais même qu'une de ces fois-là, celle du milieu, il a plu le jour du tournoi, il pleuvait dans les quartiers autour du tournoi, mais pas dans Cloverdale, où il y a eu le tournoi. Toutefois, malheureusement, vous vous en souvenez peut-être, nous avions pris la décision cette fois-là de reporter le tournoi à cause de la pluie. La pluie qui n'est pas venue. En tout cas, Dieu, dans sa miséricorde, nous a pardonné notre manque de foi et on a eu une autre protection de la pluie dans le tournoi reporté qui a été joué au mois d'août au lieu du mois de juin. Encore une fois, une période pluvieuse, pas de pluie. Dieu, encore une fois, a béni notre intercession ensemble, notre intercession corporative. Restez connectés à Dieu dans notre combat. Je voulais juste ajouter aussi un mot sur ces trois éléments qu'on voit ici. Dans la crise, dans le combat, il y a du leadership dans le peuple de Dieu, il y a de l'organisation, il y a du travail. Leadership. Dans le feu de l'action, on voit qu'on s'attend du leader établi, on laisse le leader établi discerner ce qu'il faut faire. Et Moïse le fait bien. Il décide rapidement, c'est une belle qualité d'un bon leader, décide rapidement ce qu'il faut faire et comment le peuple doit se déployer. Il dit à Josué, « Voilà, toi, tu fais ça. Moi, je vais faire ça. » Et c'est une belle qualité de leadership qui n'est pas facile. Personnellement, dans mon petit rôle de leadership en tant que pasteur, j'ai beaucoup à apprendre pour être décisif quand il faut décider vite. Mais on voit que c'est ce qui se passe ici. Et je trouve très beau comment Moïse le fait. Dieu l'aide. Je trouve très beau aussi comment Josué, finalement, obéit à Moïse dans sa décision, quand il faut décider vite. Dans l'Église locale, il y a des pasteurs, il y a des anciens qui sont appelés à jouer ce rôle. Et oui, le principe général, il faut décider ensemble, il faut se consulter. Il faut que les leaders soient à l'écoute des autres. Mais l'autre principe, c'est que les leaders décident. Et et on agit ensemble. Donc, c'est un bel exemple ici dans le cas de Moïse et du peuple. Deuxième point, organisation. Oui, donc, voilà, différentes personnes dans le peuple ont différents rôles. Il y a ceux qui vont aller combattre. Il y a Moïse qui va monter sur la montagne, garder la connexion. Et il y a ses deux assistants, Aaron et Hur, qui vont l'aider, qui vont le soutenir. Alors, le dimanche matin, ici à l'Oasis, donc, je ne sais pas si ce matin, c'est le meilleur exemple, parce qu'on a perdu une heure, mais quand même, en général, les dimanches matins, même aujourd'hui, tout le monde est en train de travailler à partir de même 8h30 pour préparer la célébration, en haut ici, dans la cuisine, en bas. Tout est important, tous sont importants. Je dirais, on sent qu'il y a un esprit de connexion à Dieu, en haut et en bas. Et vous savez, il y a une équipe de prière en bas qui intercède ensemble, y compris pour la célébration, qui fait aussi partie du combat de Dieu. Et c'est important. Et vous remarquerez peut-être que souvent, très souvent, les pasteurs, on est où durant cette heure-là? On est en bas avec l'équipe d'intercession. Et c'est parce que c'est là qu'on entretient de manière délibérée la connexion à Dieu et à sa puissance par l'intercession. Comme j'ai dit, tout est important, mais je voudrais quand même attirer votre attention à cette rencontre-là, à cette connexion-là qui a lieu au sous-sol, et c'est important. Parce qu'on veut que Dieu aille au-devant de nous dans le combat, même le dimanche matin et au-delà. Un autre mot sur travail. Vous voyez comment le peuple de Dieu au complet est au travail ici. Les soldats, c'est évident. Mais remarquez aussi comment Moïse travaille fort pour maintenir cette connexion à Dieu. Alors, vous avez vu, j'ai apporté le bâton de Moïse ici. Est-ce que c'est le vrai bâton de Moïse? Non. Mais, vous voyez, il a dit, c'est comme ceci qu'on va intercéder ou vraiment montrer à Dieu qu'on dépend totalement de lui. Il était, je ne sais pas, comme ceci ou comme ceci, mais on dit que c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil qu'il était comme ça sur la montagne. Et c'était un homme qui avait au-delà de 90 ans. Alors, debout comme ça, pendant, j'ai calculé peut-être 16 heures, je ne sais pas, mais de 7 heures du matin à 9 heures du soir, peut-être plus, c'est fatigant. C'est pas mal fatigant. Et le fait aussi d'être debout, alors, en tout cas, il l'a fait. Il a compris que c'était comme ça qu'il allait jouer son rôle et que c'est ça que Dieu lui demandait. Et c'est beau de voir Aaron et Hur prendre des initiatives. Ils comprennent le besoin, ils trouvent des solutions pour soutenir Moïse dans sa tâche. Alors, ça nous amène à une question ou à un point qu'on observe ici, c'est que des fois, ça prend une connexion à Dieu en temps réel, OK? Je pense que j'utilise correctement cette expression, mais quand on dit en temps réel, c'est dans le sens, c'est immédiat, c'est en même temps. Je lève le bâton et au moment même que je lève le bâton, les armées gagnent. Je commence à faiblir, ou peut-être ils baissaient le bâton pour se gratter, parce que... Et les armées commençaient à perdre. C'est en temps réel. Et c'est la même chose dans le ministère de prière. Alors, oui, c'est vrai. Hein? Et il y a quelqu'un qui a dit à Jésus une fois, « Dis juste une parole et je serai guéri. » Il y a beaucoup de nos prières, on a juste à la dire une fois, on peut même l'oublier si on le dit avec foi, Dieu va agir. Mais il y a d'autres moments où l'Esprit Saint nous dit, Dieu en ce moment est en train de combattre pour vous, restez connectés avec lui dans la prière. Restez avec moi, nous dit le Saint-Esprit, en temps réel. Un peu comme Jésus à Gethsémané, vous vous souvenez? Il a demandé à ses disciples, restez avec moi en temps réel. Il y a un gros combat qui a lieu en ce moment, un combat spirituel dans mon âme ou contre mon âme par rapport au salut du monde. Restez avec moi en temps réel. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu l'importance. Ils sont allés dormir. Et heureusement, Jésus, en temps réel, il s'est battu dans la prière tout seul et il a gagné. Amen.
Amen.
Heureusement pour nous, il est allé jusqu'à la croix. Mais c'est une invitation que des fois, on est appelé à combattre en temps réel. Puis des fois, c'est pas le fun. Des fois, on est fatigué. Je me souviens d'une nuit qu'on avait fait, une nuit de prière. Je pense que c'était chez Arménia. Et c'était une nuit de prière, mais une nuit complète de prière en temps réel. Et oh my, il y en avait qui s'endormaient, puis on les réveillait. On a vraiment combattu. Et tout ça pour dire que c'est un travail. Des fois, la prière... Vous savez, il y a des événements chrétiens importants dans le monde entier qui sont organisés, même à notre époque. Et on organise des équipes de prière qui sont en train d'intercéder non-stop pendant l'événement, pendant que les autres enseignent ou prêchent ou discutent ou prennent des grosses décisions. Alors, waouh! Je pense que vous comprenez l'idée de ce travail de rester connecté avec Dieu. Et c'est pas tout le monde. Des fois, il faut se séparer. Certains vont être en train de combattre, d'autres vont être en train de prier. Alors, notre Dieu, aujourd'hui, comme à l'époque, mène un grand combat spirituel pour sauver un peuple. Et c'est pas fini, il y en a encore beaucoup d'autres à sauver. Hein? Pensons au Jesus Night. Est-ce que Dieu veut sauver des jeunes au Jesus Night du 21? Est-ce que c'est pas un sujet de prière, ça? Il veut préparer le monde pour son règne. Il veut nous préparer aussi pour son règne. Donc, il veut te confier à toi aussi des rôles et des actions dans son armée. Alors, je vous rappelle l'importance de nos temps de prière ensemble comme Église. Il nous a donné une mission. C'est la mission qu'on garde devant nous à l'Oasis, que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ dans l'ouest de l'île de Montréal et jusqu'aux extrémités de la terre, en voyant des personnes transformées par le Saint-Esprit qui, à leur tour, vont transformer leur milieu. Ça mérite la prière. On a aussi discerné 5 objectifs de notre mission. Former chaque personne comme disciple. Faire connaître Jésus autour de nous, répandre sa justice et sa compassion, bâtir l'unité dans notre diversité et prendre notre place dans la mission mondiale. On travaille à ces choses et chacun a des niveaux différents, chacun a son rôle, mais ça nécessite beaucoup de prières aussi. Alors, qui va aider à tenir le bâton de Dieu? le bâton de Moïse, le bâton de Dieu. On a nos moments de prière à 9 heures, les dimanches matins ici, qui sont des moments pour cela. Mais aussi, mardi qui s'en vient, mardi soir à 19h30, un temps d'intercession en communauté sur Zoom. Et on va prier pour ces choses que je viens de mentionner à l'écran. OK, alors, si mardi soir, tu es quelque part, tu es appelé à combattre Amalek, et j'utilise des images comme ça, mais tu es occupé à être un témoin de Christ quelque part d'autre, bien, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Peut-être tu peux nous dire, prie pour moi, je vais être à tel endroit. Peut-être que tu auras combattu toute la journée, puis il faut vraiment que tu te reposes mardi soir. C'est correct, repose-toi. Mais pose-toi aussi la question, est-ce que ce n'est pas ma place d'être sur la colline avec les frères et sœurs de l'Oasis dans la réunion de prière Zoom et on va intercéder pour le combat de Dieu? Alors, réfléchissez, priez. Je pense qu'on va avoir un super temps mardi. Et pour terminer, vraiment, je vous promets que c'est la fin, avant la prière finale, je vous lis un texte d'Éphésiens 6 où l'apôtre Paul nous dit, en fait, c'est quoi notre combat à nous dans la Nouvelle Alliance? Il dit aux chrétiens de son époque, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Okay. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi. » Alors lui, c'est l'évangéliste, le missionnaire. « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Alors, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble maintenant. Merci, mon Dieu, pour ce texte qui nous nourrit. Merci, Père, parce que même si le salut que tu nous donnes, c'est un repos et c'est un réconfort, et c'est une assurance. En même temps, tu nous rappelles que tu nous appelles au combat, un combat spirituel. Et l'Oasis est un lieu où on apprend à combattre ensemble, y compris dans la prière. Alors, Père, montre-moi quel est le prochain pas pour moi, m'engager davantage dans un ministère, soit pour être plus impliqué dans le combat de la prière, pour vraiment encourager ton peuple à rester connecté dans ces moments de prière en commun. Ô Père, merci, merci aussi que tu nous dis prier sans cesse. Et donc, apprends-nous à prier 24 heures sur 24, à être dans cet esprit-là, dans nos groupes maisons, dans notre vie de famille et même au travail. Ô Père, merci. Merci parce que tu as déjà gagné la victoire. Merci parce que tu vas au-devant de nous. Pardon. Nous prions toutes ces choses dans le nom précieux de Christ. Amen.